matin, tout le monde. Mon son est mâche. Ça va bien? On m'entend? Good. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Sergueï. Je suis le responsable jeunesse. Je vais vous commencer à réaliser. J'ai arrêté de dire le nouveau. Je pense que j'ai c'est assez pour dire ça. Cette semaine, j'ai été super béni à la jeunesse. C'était notre deuxième soirée en présentiel à vie pour moi. Puis on a vraiment été bénis depuis le mois de janvier de pouvoir avoir des jeunes présents tous nos vendredis soirs. On fait deux services parce que dans le fond, on peut avoir juste 25 personnes. Et on a eu deux services remplis avec nos jeunes. Puis c'était vraiment un temps précieux qu'on a à chaque semaine avec eux. On voit que même pendant la relâche, nos jeunes ont pu avoir du bon temps ensemble puis se rassembler. Et c'est vraiment le fun de voir ici, tout le monde ici dans la salle. Je vous dis bonjour aux gens à la maison, puis aussi aux gens qui nous regardent dans les autres salles en haut. J'ai eu des notes qu'il y a des gens qui nous regardent en direct de Sherbrooke, donc je vous salue de ma part. Ce matin, c'est notre premier dimanche de Libération 21. Et dans le fond, les pasteurs Normand et pasteur Dominique m'ont dit ça, je pense à ma troisième journée que j'étais embauché à l'église, et ça m'a mis un petit peu de stress, un petit peu de pression, parce que je me suis dit, waouh, les gars, c'est le premier, là, ça set un peu le ton, tout ça, ça met un petit peu de pression, mais moi, je suis un gars qui aime ça, fait que ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi poussé cette semaine à découvrir plein de richesses dans toute la Bible, puis découvrir ce Dieu-là. Et ma prière pour vous, pendant les 21 prochains jours, c'est qu'on puisse développer collectivement une dépendance envers Dieu, et que Dieu puisse se révéler d'une manière spéciale envers nous. Je prie que les promesses de Dieu puissent être une source de réconfort pour nous tous et une source de joie dans nos vies. Ça n'a pas été une année facile, ça va bientôt faire un an. Je pense que la semaine prochaine, on va se commémorer le un an puis toutes les victimes de la COVID-19. Ça a été une année bouleversante, une année où est-ce que on a eu des hauts et des bas. Et dans le fond, ce que je voulais vous prendre comme temps ce matin, c'est de se rappeler ces promesses-là, mais aussi de découvrir ce Dieu-là derrière ces promesses. Ma question pour vous ce matin, c'est: avez-vous déjà fait des promesses dans votre vie? Oui, vous pouvez répondre, merci beaucoup. Excusez, je suis habitué à la jeunesse, on répond. Donc, on a déjà fait des promesses dans notre vie, on a gardé des promesses, mais on a surtout brisé les promesses. Je pense que dans votre vie, c'est pas mal ça qu'on retient. Après, je suis pas tant vieux, là, j'ai juste 26 ans, mais je me rappelle pas de toutes les promesses que j'ai pu garder ou que les gens ont gardées, mais ce que je me rappelle de plus, c'est les promesses que les gens ont pas gardées envers moi ou envers quelqu'un d'autre. Et les promesses, ça peut être des petites promesses, comme je vais rentrer chez nous tantôt à 7 heures, ou le mariage même. On fait des promesses, on reste ensemble jusqu'à ce que le monde nous sépare, tu sais. On bâtit nos vies à travers des promesses. Les promesses deviennent rassurantes, les promesses deviennent des sources de réconfort dans nos vies. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les promesses rendent nos vies un petit peu plus prévisibles. Cette année, c'était pas une année facile, comme on l'a dit. Et ceux qui utilisent l'application YouVersion, la Bible, ils ont fait une statistique pour l'année 2020. En 2020, il y a eu plus de 600 millions de recherches dans la Bible. Une hausse de 80% à l'année précédente. On a vu que les gens se sont vraiment... ils ont tourné vers Dieu dans les temps où c'était vraiment plus difficile. Et ce qui est fou dans ces recherches-là, c'est que les gens ont cherché des choses comme l'assurance d'Ésaïe qui dit de ne pas craindre. C'était le premier verset au niveau mondial cette année. Au Ghana, le premier verset, c'était « Ne vous inquiétez pas ». Et au Kenya, c'était Romains 8, 28. « En toute chose, Dieu travaille pour le bien ». On voit que les gens sont allés dans les promesses de Dieu pour retrouver du réconfort dans cette année où c'était difficile. Et même notre fameuse phrase au Québec que j'ai dû expliquer à tous mes amis ontariens et américains, « Ça va bien aller ». C'est une promesse dans un sens. Puis vous autres, je pense, depuis... Au début, quand on a vu ça, là, que tout allait être fermé pour 2 semaines, puis on s'est dit « ça va bien aller », on s'est dit « ah, c'est juste 2 semaines ». 9 mois plus tard, un an après, on est encore ici, puis on se dit encore « ça va bien aller ». Puis moi, j'y crois vraiment que ça va bien aller parce que, pour moi, mon espérance, c'est pas juste dans le physique puis dans l'éphémère qu'on a aujourd'hui, mais je me dis, c'est comme, il y a un Dieu qui promet ça aussi, que ça va bien aller à la fin de tout ça. Voyez les promesses, c'est un pilier de la société. Il y a un journaliste américain qui disait souvent dans ses reportages que la civilisation repose sur des séries de promesses. Les promesses sont importantes dans nos vies individuelles et collectives. On passe notre vie à attendre, espérer, croire. Mais ce qui arrive, c'est que j'ai posé une question très précise à la jeunesse vendredi soir. J'ai demandé aux jeunes, que pensez-vous quand qu'on vous dit le mot fidélité? Fidèle. Et à ma plus grande surprise, le premier mot qui est arrivé, c'est infidélité. Avec les années, ce qu'on voit, c'est qu'on a de la misère à faire confiance aux gens. On a de la misère à mettre cette confiance-là que les gens vont garder leurs promesses. On voit les taux de divorce au plus haut, les gens qui se marient moins, les gens qui gardent moins leurs promesses. Et ça, ce que ça développe, ça développe des problèmes de confiance dans nos relations de tous les jours. On développe ce manque de confiance dans les gens. De plus on vieillit, moins on fait confiance aux gens. Plus on vieillit, moins on fait confiance au gouvernement, aux médias et à tout ça. Puis, ce qui arrive, c'est que dans nos promesses, c'est que ça vient brimer un peu notre façon qu'on voit aussi les promesses de Dieu. Parce qu'on se dit, ben si les gens à qui je fais le plus confiance aujourd'hui dans la vie brisent leurs promesses, ben Dieu doit aussi briser ses promesses. Il ne doit pas tant les garder. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les promesses de Dieu, il y a un délai, tout souvent. Dieu promet quelque chose et ça n'arrive pas directement. Il y a un délai, puis ça nous met une pression, puis ce manque de confiance-là dans ce que Dieu dit. Parce que c'est brimé, parce que nous, comment que nous, on voit nos promesses, comment est-ce que nous, on garde nos promesses même, ou comment est-ce que nous, on vit ces promesses-là avec les gens. Donc, notre vie est composée de promesses. Vous en avez sûrement fait ce matin, vous allez peut-être en faire tantôt, puis même ce matin, peut-être que vous avez été blessé par ces promesses-là. Puis peut-être vous, ce matin, vous asseyez puis vous dites, « Ah, les fameuses promesses de Dieu, puis vous avez vraiment une année rough, puis vous vous demandez comment est-ce que Libération 21, avec le thème de la promesse de Dieu, va vous faire du bien, bien, pour vous, je pense que cette série-là, c'est pour vous. C'est de nous se rappeler qui est ce Dieu derrière ces promesses-là. Puis pourquoi est-ce qu'on fait tant de promesses dans nos vies? Je pense que c'est parce qu'on a été créé à l'image d'un Dieu qui fait des promesses dans nos vies, qui a fait des promesses tout au long de l'existence de l'être humain. On fait des promesses parce qu'on a un Dieu qui fait des promesses. Il y a quelques années, un Canadien a fait une recherche à travers la Bible parce qu'il y a un gros débat qui se fait dans le monde évangélique. Il y a eu combien de promesses dans la Bible? Il y a eu des chiffres comme 3 000, 4 000, 30 000 même. Mais un Canadien, il a lu sa Bible dans toute sa vie 26 fois. Et la 27e fois, il a dit, je vais la dédier aux promesses de Dieu. Je vais lire la Bible vraiment lentement, verset par verset. Je vais relier chacune des promesses à son accomplissement ou ce qui s'est passé. Et ce théologien-là, après sa 27e fois, après 18 mois de travail, il a compté 8810 promesses. De ces 8810 promesses-là, il y en a 7487 qui sont faites directement vers l'être humain. Et là, ce qui arrive, c'est que cette semaine, moi aussi, j'ai eu ce doute-là. J'ai eu des doutes des fois cette année où j'ai pas vu Dieu agir comme que moi je l'aurais voulu. Puis j'étais dans des moments de délai, de souffrance, où j'ai eu de la misère à mettre ma confiance dans ces promesses-là. Puis ce matin, c'est ça votre sentiment. C'est peut-être ça votre sentiment, vous avez perdu confiance dans les promesses de Dieu, dans tout ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, dans la vie, au travail, dans votre famille. Dans les deux dernières semaines, j'ai vraiment pu découvrir une richesse, pas seulement dans les promesses de Dieu, mais dans le Dieu derrière toutes ces promesses-là qui ont été faites. Ce matin, on va faire un petit survol de l'Ancien Testament. On va voir comment est-ce que Dieu a agi avec son peuple tout au long de l'histoire. Parce que si on veut connaître ce Dieu, on doit comprendre l'histoire biblique derrière toutes ces promesses-là. Ça a commencé dans le premier livre, dans les premières journées de la création, où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et Dieu a fait une promesse. Il dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On voit ici que cette promesse-là, elle a deux côtés. La descendance du serpent, Satan, le diable, va attaquer la descendance de Ève, mais la descendance de Ève va triompher. Donc, on voit que cette promesse-là, tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du Nouveau Testament, on voit que Dieu on voit que cette promesse-là est remise souvent en question par le peuple de Dieu, par le délai, par le péché de l'homme, par toutes les choses qui viennent difficiles. On le voit directement dans les enfants d'Anaïf, Caïn et Abel. Caïn, on voit qu'il abolit son frère, qu'il l'assassine. Exactement. La promesse de Dieu se fait remettre en question. Mais Dieu préserve la lignée d'Adam à travers Seth. Par la suite, on voit Noé qui est préservé. Dieu a vu que l'humanité était remplie de péchés, l'humanité a vraiment la misère, puis il a décidé de faire un reset un peu sur la terre avec son peuple, avec l'humanité. Mais il préserve Noé et sa famille. Dieu fait une autre promesse. De ne plus jamais détruire l'humanité avec de l'eau, avec un déluge. On voit avec les siècles, les années qui passent, que le peuple de Dieu, l'humanité, devient de plus en plus pécheresse, le péché est de plus en plus présent dans l'Ancien Testament. Mais Dieu n'oublie pas sa promesse de ne pas exterminer l'humanité de la terre. Après ça, on voit Abraham. Dieu choisit Abraham, puis là, le peuple, l'humanité pense que, OK, il y a peut-être un dénouement à cette promesse-là que Dieu a faite dans Genèse 3. Il choisit Abraham, un vieil homme sans enfant, il lui fait une promesse. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Je donnerai cette terre à ta descendance. » Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'Abraham a une relation illicite et un peu remet en question cette promesse-là d'avoir une descendance. Et là, il y a un enfant, Ismaël. Mais Dieu préserve sa promesse et renouvelle sa promesse avec Abraham. Et Abraham devient Abraham. Et là, Abraham, avec Sarah, ils doutent encore. Abraham, et on a vu dans l'Ancien Testament, tous les doutes qu'il y a eu envers Dieu dans ses promesses. Il était comme, mais comment je peux avoir un... Je suis rendu vieux, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais Dieu garde sa promesse, puis il y a un enfant. Puis ce qu'on voit là, c'est que il y a vraiment toute une... Les nations se développent, commencent à se développer là. Après ça, on voit Jacob et Ésaü. Ésaü remet encore en question la promesse de Dieu et tente de détruire Jacob. Mais on sait que Jacob a été choisi l'Éternel. Mais l'Éternel, Dieu, il préserve encore Jacob et sa descendance. Là, ce qu'on voit, c'est que Jacob a 12 fils, les 12 nations. Et à travers ces nations-là, on pense que, bon, ça y est, la promesse s'en vient, elle va être accomplie maintenant. Mais ce qu'on voit, c'est que Joseph se met en esclavage, il est emprisonné, puis une famine qui menace toute sa famille. Mais Dieu est fidèle. Il utilise Joseph pour délivrer sa famille de la famine. Puis là, on voit encore que le péché vient menacer cette promesse-là. Où est-ce qu'un roi, le pharaon, devient jaloux et extermine toutes les premières générations de garçons. Là, on pense que encore la promesse de Dieu va être abolie, mais Dieu est fidèle. Il se souvient de son alliance avec Abraham et préserve Moïse. Dieu est fidèle et utilise Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage. Et là, on arrive au mont Sinaï où est-ce que Dieu renouvelle sa promesse avec Moïse, de la même manière qu'il l'a fait avec Adam et Ève. Il dit, « Si le peuple obéit, il restera dans la terre promise. Mais s'il se rebelle, Dieu les chassera. » Ce qui est drôle, c'est que directement en descendant de la montagne, son peuple se rebelle directement. Et là, ce qu'on voit, c'est que Moïse n'a jamais rentré en terre promise. Mais Dieu reste fidèle à sa promesse. C'est la promesse d'Abraham. Josué arrive dans l'histoire. Une nouvelle génération ressuscitée. Il arrive dans la terre promise. Il conquiert les Cananéens. Mais le peuple continue de se rebeller. Et là, on voit ce qu'on voit, c'est des juges qui arrivent. Puis on a un cycle de rois qui arrivent. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que il y a un acte ultime de rébellion qu'on appelle. Parce que là, le peuple de Dieu se dit, on ne veut plus Dieu comme le roi. On veut un roi comme les autres nations. Là, on pense que la promesse est encore remise en question puis abolie, mais Dieu préserve sa promesse et il est fidèle, puis il envoie un roi proche de son cœur, David. David est comme un fils pour lui. Et là, Dieu il fait une autre promesse avec David. Donc, Dieu promet à David qu'il aura toujours un fils pour régner sur son trône et que ce fils régnera dans la justice. Donc, la semence promise dans Genèse 3 et 15, et en fait, là, on arrive que ça va être un roi qui va nous délivrer de ce peuple-là. Puis Puis là, dans le fond, David, il y a un enfant, Salomon. Fait que là, on pense que, ah, enfin, la promesse va s'accomplir, puis on va être capable de délivrer. Et là, ce qu'on voit, c'est que Salomon s'avère infidèle. Et le jugement suit. Et là, ce qu'on voit, c'est le peuple de Dieu, les deux royaumes qui se séparent, le royaume du sud qui commence à être en exil pendant 70 ans, et là, finalement, il revient. Et là, ce qu'on voit, c'est le temple de Dieu, les murs de Jérusalem sont rebâtis, il y a comme un momentum qui se crée, et là, on voit la naissance de Jésus qui arrive. Jésus naît, là, c'est un miracle qui se passe. Les anges viennent, les rois viennent de loin, et là, on pense que, ah, ça y est, le Fils promis, la promesse va s'accomplir en Jésus. Puis là, une fois de plus, cette promesse est remise en question. Les leaders religieux renient Jésus et les Romains le crucifient. Les miracles de Jésus, tout ce qu'il faisait dans sa vie, ses paroles, avaient ce pouvoir-là de « Ah, enfin la promesse va être accomplie. » Mais Jésus est crucifié. Là, je ne vous révélerai pas de punch ce matin. 3 jours après, Jésus est ressuscité, puis il est revenu à la vie. Par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus avait écrasé le pouvoir de Satan, libéré son peuple de l'esclavage du péché. Par sa résurrection, Jésus a garanti que la nouvelle vie du royaume de Dieu avait enfin vu le jour. Là, vous pouvez peut-être vous poser la question ce matin, mais pourquoi est-ce qu'on fait ce survol-là de l'Ancien Testament pour les promesses de Dieu? Ce matin, ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est la fidélité de Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Et ce matin, c'est peut-être ça que toutes les promesses que nous, on a vécues en tant qu'êtres humains sur la terre, où est-ce qu'on a eu des promesses qui ont été brisées, bien, ça se peut que ça l'a brimé, puis ça l'a mis des mauvaises lunettes de la façon que tu vois les promesses de Dieu, puis que tu les remets en question, tu remets Dieu en question. On voit un pattern dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu, il rentre en relation avec son peuple à travers des promesses. Puis ces promesses-là ne sont pas juste pour le peuple dans l'Ancien Testament, mais pour nous aujourd'hui ici. Ce qu'on voit, c'est que la promesse de Dieu est remise constamment en question dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament même. Mais Dieu a préservé sa promesse à travers tout l'Ancien Testament. Deutéronome dit que « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Lorsque j'ai étudié un peu le mot fidélité, l'image qui m'est venue en tête, c'est cet appui solide sur lequel on peut s'accoter puis dire que c'est du solide ce qu'on a. Puis souvent, les promesses, la façon qu'on les voit, c'est « Ah, quand quelqu'un nous fait surtout une promesse, c'est « Ah, ben on sait bien que c'est juste pour parler. » Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars de plein d'idées. Je suis un gars qui, si vous avez un moment donné un problème avec quelque chose, venez me voir, puis je vais vous trouver une idée. À la jeunesse, je plains ceux qui travaillent avec moi à la jeunesse. J'ai des idées à tous les jours, je les appelle, puis je dis « Hey, j'ai pensé à ça ». Et là, ça, c'est mon plus gros défi. C'est que, en anglais, on dit « overpromise ». Je vais trop promettre, puis je ne vais pas livrer la marchandise. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est que les gens, ben, ils perdent confiance dans mes idées. C'est quelque chose que j'essaie de travailler. Mais les promesses de Dieu ne sont pas des paroles en l'air comme que nous on fait. Les promesses de Dieu sont cet appui. Là, je ne sais pas à quel point ça c'est solide, fait que je ne vais pas trop m'appuyer. Mais les promesses de Dieu sont cet appui solide, ce roc solide sur lequel on peut s'appuyer puis mettre tout notre poids dessus. On a des problèmes de confiance avec les gens. On a des problèmes de confiance avec des gens qui font des promesses à nous. On a été blessés, on a eu des relations brisées à cause de ça. Mais c'est normal. On est des pécheurs. Vous êtes pécheurs, je suis pécheur. On fait toutes des erreurs dans la vie. Mais ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas mettre la confiance qu'on a dans les gens, ben, on ne peut pas voir Dieu de la même façon. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu est sans péché. On a un Dieu qui fait des promesses et qui les accomplit. Puis là, ce qui m'a frappé dans tout ce souvent de l'Ancien Testament, ce que j'ai vu, c'est que Dieu, les promesses de Dieu, ben, ils ne dépendent pas de notre façon, de notre capacité à être fidèle envers Dieu. Ce qu'on voit, c'est des promesses de Dieu. Dieu fait des promesses. Le peuple se rebelle, remet en question, ne fait pas les promesses qu'eux doivent faire envers Dieu. Mais là, Dieu, à chaque fois, il est gracieux, puis il est amour, puis il continue. Il continue. Hey, on a fait 7487, là. Ça en fait des promesses là, pour des gens qui n'écoutent pas. Puis je me dis, il ne doit pas être tanné à un moment donné. Il ne doit pas être comme dire, comme, voyons donc, là, come on, là. Mais il a fait une promesse qui n'allait pas juste nous enlever de la terre avec un déluge. Dans 2 Timothée 11, 13, ça dit, « Car ses paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous régnera. Par contre, si nous sommes infidèles, bien lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. » Un commentateur a dit que Paul précise que même notre propre doute et notre incrédulité ne peuvent pas le changer. Il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Nous ne mettons pas notre foi dans notre foi ou dans nos sentiments ou dans notre capacité à avoir la foi en Dieu, car ça va changer et ça va échouer. Nous mettons notre foi dans le Christ. Le fameux missionnaire Hudson Taylor a dit, ce n'est pas en essayant d'être fidèle, mais en regardant le fidèle que nous avons remporté la victoire. 2 Corinthiens 1:18 dit, « Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Toutes les promesses de Dieu sont étampées du oui de Jésus. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a promis, bien, il l'a accompli dans la vie de Jésus. Vous voyez, les promesses de Dieu sont pas juste comme Dieu te promet ça. Dieu te promet la santé, Dieu te promet la richesse ou Dieu va te donner une terre promise. C'est une promesse à deux volets. Je promets quelque chose et le peuple doit faire quelque chose aussi. Et là, ce qui arrive, c'est tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple de Dieu n'est pas capable d'accomplir ses promesses de leur part. Mais là, à cause que Jésus est venu sur terre, à cause qu'il est venu vivre une vie parfaite, mourir puis ressusciter, mais je peux être sûr que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. La preuve ultime, c'est que tout ce que nous on n'a pas pu accomplir, mais Jésus l'a accompli. Puis ce matin, je veux pas que tu aies en tête que ben Dieu est fidèle si moi je suis fidèle. Parce que ça arrive, c'est que nous, notre concept de la fidélité, on le voit d'une manière horizontale où est-ce que moi je vais garder ma promesse, si toi tu vas garder ta promesse. Puis le défi qu'on a, c'est qu'on a de la misère à faire confiance à quelqu'un quand lui brise sa promesse. Et là, on a de la misère à être fidèle envers cette personne-là. Mais imaginez Dieu, tout l'Ancien Testament, toutes ces années-là où est-ce que le peuple n'arrête pas d'être infidèle. Puis même aujourd'hui, nous aussi, on reste infidèles. On ne respecte pas les promesses de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Ce matin, il y a un chant que j'ai demandé à, que l'équipe de louange fasse. C'est un chant qui m'a aidé à remettre tous les doutes que j'avais sur les promesses de Dieu, tous les doutes que j'avais par rapport à Dieu dans ma vie. Mais ce chant-là est venu comme mettre un baume sur ma vie. Le refrain dit, « Ta promesse est vraie, ta fidélité ne durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, je ne faillis jamais. » Ce matin, je veux qu'on loue Dieu ensemble et qu'on remercie Dieu d'être un Dieu fidèle et d'être un Dieu qui garde ses promesses. Parce que clairement que nous, on n'est pas capable de garder nos promesses. On en brise à tous les jours. Jésus, il a accompli ces promesses-là que nous, on n'a plus accomplir. Et ce qui est fou, c'est que c'est ça qui fait la différence aux yeux de Dieu. Parce que tout ce que Dieu voulait montrer dans l'Ancien Testament, c'est que ces promesses-là, ben nous, on n'est pas capable de les garder parce que nous, on est un peu infidèles et on est pécheurs. Mais la vie de Jésus, ce qu'elle nous a montré, sa mort et sa résurrection, c'est que bien, il a vécu ces promesses-là que nous, on n'a pas été capables d'accomplir. Ce matin, tu as peut-être un fardeau devant Dieu puis que tu te dis que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez fidèle envers Dieu. Bien, la vie de Jésus, bien, elle a mis un baume à ça. La mort et la résurrection de Jésus, elle a donné cette espérance-là dans ces promesses-là de Dieu, que Dieu va rester fidèle envers nous, même si nous, on est infidèles. Parce que Jésus est venu et il est mort sur la croix pour nous. Ces promesses-là qu'on a dans l'Ancien Testament aussi, c'est que si on ne respecte pas nos promesses, bien, Dieu va nous chasser, puis il va nous condamner, puis il va nous chasser du peuple de Dieu. Ça, c'est ça qui nous attendait. C'est ça qui nous attend encore aujourd'hui. Mais ce qui est fou, c'est que cette souffrance-là, puis cette conséquence-là des promesses non gardées, bien, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. C'est Jésus qui l'a ramassé, cette faute-là, cette blessure-là, ce bris de relation-là. En Jésus, t'as un oui. Pas tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en Jésus, t'as un oui sur les promesses que Dieu t'a faites. T'as un oui dont Dieu va prendre soin de toi comme il l'a promis. En Jésus, t'as un oui que Dieu t'es maintenant son enfant comme il l'a promis. T'as un oui que tes péchés sont pardonnés comme il l'a promis. T'as un oui qui veille sur toi comme il l'a promis. Ce matin, je veux que tu ressortes avec cette pensée-là que les promesses de Dieu sont vraies, que Dieu est fidèle, peu importe ce qui se passe. Peu importe s'il y a une pandémie, peu importe si tu vis des souffrances, puis peu importe comment que les gens réagissent avec toi. T'as un oui en Jésus parce que Jésus a accompli les promesses que nous, on ne peut pas accomplir. Puis dans ces promesses-là, bien, il y a une promesse que bien, Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu prendre notre péché sur lui. Puis ce matin, on a la chance de revenir à lui, même si on a été infidèle ce matin même. On a la chance d'accepter ce cadeau, de remettre notre vie à Dieu, puis de juste de louer Dieu, puis de le remercier qu'il reste fidèle à travers tout ça. Les prochains jours dans Libération 21, je prie vraiment qu'on développe cette dépendance-là. Pas seulement dans les promesses de Dieu, mais dans le Dieu derrière cette promesse-là. Dans le Dieu derrière qui reste fidèle à son peuple, même quand il est infidèle. Cette promesse-là qui n'est pas subjective à notre façon de vivre, il n'est pas subjective à ce qui se passe sur ce temps-là. Parce ce qu'on voit, c'est que Jésus a aboli le péché qui est venu nous séparer de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Parce que Dieu s'est montré fidèle, nous pouvons lui faire confiance en espérant que tout ce qu'il a dit, il le fera. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, je veux tellement te remercier ce matin, te t'honorer et te glorifier d'avoir accompli ta promesse en Jésus, d'avoir accompli ta promesse dans sa vie, dans sa mort puis dans sa résurrection. Merci d'avoir accompli la promesse que tu vas nous sauver, que tu nous aimes, peu importe ce qu'on fait. Seigneur, c'est un cadeau qui ne fait pas de sens pour nous aujourd'hui. Mais merci de nous l'avoir donné, merci de nous donner cet accès-là encore au Père, cet accès qu'on avait au début, mais que par notre infidélité, ben, on l'a perdu. Merci d'avoir envoyé un Dieu fidèle, qui a été fidèle dans toutes ses promesses. Merci d'être ce Dieu d'amour et de grâce pour nous aujourd'hui même, qui nous donne accès au Père, parce que tu as gardé cette promesse-là, que tu vas nous aimer peu importe ce qu'on va faire, puis que Jésus, ben, il a pris tous nos péchés, puis toutes nos erreurs, Seigneur grand Dieu.